Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Cher Maurice, bonjour.
Bonjour Caroline.
Est-ce que vous acceptez de nous donner le sujet du jour?
Ce sera le pâté en croûte.
Ah, bon, original. Mais pour commencer, portrait d'un chef aussi discret que sa cuisine est solaire, un homme aubergiste dans l'âme, doté d'une volonté farouche et d'une énergie communicative, dont le travail, la détermination et le talent lui ont valu l'ultime récompense de la gastronomie française en 2022. Je veux parler de la 3e étoile au guide Michelin, une consécration amplement méritée. Son histoire, c'est celle d'un Normand marié à une Aveyronnaise qui ensemble ont élu domicile à Cassis, où ils ont repris en 2013 un lieu magique, lové dans une crise naturelle, une crique naturelle et sauvage, la Villa Madi, bâtie contemporaine dont la terrasse offre un panorama à couper le souffle sur les pins parasols, les eaux turquoises de la Méditerranée et les roches rouges du Cap Canaille. Mais c'est aussi l'histoire d'un petit garçon hyperactif que seule la cuisine a su canaliser, comme le rappelle sa maman dans ce reportage diffusé sur TF1.
J'allais donc travailler en confection et j'arrivais à la maison, je me dis mais qui c'est qui a fait les frites, qui c'est qui a fait les escalopes, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Il m'a dit, maman, tu mets les pieds sous la table, c'est à nous de te servir. Et il avait préparé les frites, préparé les escalopes, préparé. Et là, j'ai eu peur. Je lui ai dit, mais tu aurais pu mettre le feu à la maison. Et en fait, c'est là que ça a commencé. Il m'a dit, maman, tu sais ce que je veux être? Cuisinier. Je lui ai dit, Dimitri, qu'est-ce que tu racontes? Cuisinier. Si, maman, si, je t'assure. Je lui ai dit, non, Dimi, tu dis n'importe quoi.
C'était pas si n'importe quoi, Dimitri Doisneau. Bonjour.
Bonjour Caroline. Bah écoutez, c'était assez prémonitoire. Même,
absolument. Vous aviez 9 ans, c'était les premières frites que vous faisiez.
Oui.
Vous vous souvenez si elles étaient bonnes et si la famille avait apprécié?
Elles n'étaient pas mauvaises. J'ai pas vraiment le souvenir. Ce que je me rappelle, c'est finalement mon père qui arrive le midi et qui met les pieds sous la table en croyant que ma mère est là. Et je le sers, normal, et ma mère arrive 5 ou 10 minutes après, il y a eu un petit quiproquo visiblement là.
Donc, une petite peur aussi, une petite peur.
Une petite peur, ouais. Ouais. Bah, écoutez, c'était voilà, une petite gazinière, gaz, le feu, les frites, l'huile.
Mais il y avait déjà de la maîtrise de votre part.
Il y avait une
part.
Certaine maîtrise, ouais.
Certaine détermination, parce que vous saviez que vous aviez envie de faire ça.
Bah là, oui.
Je tiens vraiment à vous remercier infiniment d'être là, Dimitri Doisneau, en studio, qui plus est, puisque vous avez pris le train depuis Cassis ce matin, et vous repartez cet après-midi. Et en plus, à l'opposé de la majorité dans le milieu, qui est assez pour la médiatisation et les réseaux sociaux, parce qu'ils considèrent souvent la plupart des chefs, en tout cas établis, et puis certaines stars montantes, que c'est un élément de survie. Vous, pas du tout. Vous vous tenez à l'écart de toute forme de médiatisation et des réseaux sociaux. Donc vraiment, vraiment merci.
Mais écoutez, merci à vous.
Chez vous, le travail, le mérite, la volonté d'y arriver, est-ce que c'est des choses... On l'entend déjà à 9 ans. Est-ce que c'est des choses qui vous ont été transmises par vos parents? Est-ce que c'est des valeurs que vos parents vous ont transmises et puis qu'ensuite l'expérience et peut-être le parcours qui a été le vôtre vous ont permis d'éprouver?
Oui, intrinsèquement, oui. De toute façon, ma sœur, c'est pareil. Hein, on a la même niaque, on va dire. On a des parents qui nous ont transmis beaucoup d'énergie. Il y avait énormément de communication à la maison. C'est vrai que je viens d'un milieu modeste et je pense que c'est vrai que c'est peut-être ce qui a fait aussi la différence à un moment donné. Mes parents m'ont toujours dit, si tu veux t'en sortir, il n'y a pas 36 écoles. Il y a le travail, le travail, le travail.
Le travail qui a commencé avec l'apprentissage, voilà. Avec un homme important pour vous.
Oui, Monsieur Canet, une petite maison en Normandie, à Alençon, dans l'Orne. J'étais déjà, je suis parti à 16 ans de la maison, je suis parti donc dans ce village à Alençon, à 60 km de chez moi.
Vous étiez à Évreux?
Alors non, à Alençon. J'habitais à L'Aigle. Et donc, je suis parti donc déménager pendant 2 ans pour un CAP BEP de cuisine. Parce que c'est vrai que je voulais pas faire d'école hôtelière. J'étais vraiment complètement épuisé de l'école. J'étais vraiment à côté du système du système éducatif. J'y arrivais pas à l'école. J'y retrouvais pas du tout ma place. Je tenais pas sur une chaise. J'étais pas insolent, mais c'est vrai que j'avais pas du tout ma place à l'école. Donc, j'ai fait le maximum pour avoir mon brevet des collèges. Je l'ai dû l'avoir à 162 sur 320, un truc comme ça. Enfin, j'étais au bout de ma vie. Et pour moi, c'était la fuite, quoi, la fuite en cuisine, parce que j'ai eu l'occasion de faire un stage en quatrième qui s'est très bien passé. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans une cuisine, je pense que je suis jamais ressorti, en fait. À partir de 14 ans, j'ai vu cette ambiance, cet autre mode de vie, en fait, où on travaille le midi, le soir. Puis ça m'occupait, quoi, surtout. Ça me nourrissait.
Donc les années d'apprentissage avec
les années d'apprentissage, deux ans chez un monsieur où c'était, je vous cache pas, c'était dur, quoi. C'était 7h le matin, minuit, 6 jours par semaine, les week-ends de CFA, j'allais travailler. J'étais complètement absorbé par un monsieur qui m'a transmis le maximum, beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire qu'il faut mieux commencer dans des petites maisons à peut-être 2-3 cuisiniers. Avec des messieurs comme ça qui transmettent vraiment la passion et tout ce savoir-faire. Parce que des fois, c'est vrai que sincèrement, ça aurait été une erreur de commencer dans un 2 ou 3 étoiles à l'époque.
Vous n'avez pas commencé par un 2 ou 3 étoiles, mais vous y êtes allé, remarque, assez vite.
Oui.
Puisque vous vous êtes retrouvé à l'Ambroisie, à Paris, place des Vosges, oui. Après une première expérience dans un restaurant. Mais il a été très important, ce Bernard Pacot, qui est le chef 3 étoiles de l'Ambroisie. Vous y avez travaillé 3 ans.
4 ans.
4 ans même, avant de partir au Bristol chez Éric Fréchon, et puis de revenir.
Oui.
On va écouter ce que dit Bernard Pacot de la rigueur qu'il exige des jeunes. Ouais. Qui arrive chez lui.
La pâtisserie, c'est une... On le dit souvent, c'est une... Exact. Un petit four, ça doit être net, précis. Lorsque vous commencez par la pâtisserie, 6 mois, 8 mois de pâtisserie, que vous avez appris tous ces petits gestes un peu maniaques, dire ça, c'est le fait qu'un petit four soit net, qu'une tarte au chocolat, qu'elle soit cuite juste comme il faut, mais ça, quand vous rentrez en cuisine, je vous promets que c'est très, très utile. Très important. C'est comme l'hygiène, la propreté dans une cuisine. Ça, si vous apprenez à tous les gens qui travaillent avec vous, que dès qu'ils descendent, ils se lavent les mains, qu'ils ont toujours des torchons propres, qu'ils rincent des casseroles comme on leur impose ici, je vous promets, au début, ça les énerve, parce que ça dépend d'où ils viennent. Hein. Mais bon, très souvent, ils ne sont pas habitués à ça. Et j'aime bien les tester là-dessus, même leur imposer ça. Alors, le gars, si ça le blase, parce que je lui dis, il faut rincer chauffer une casserole, si je le chope 2 ou 3 fois qu'il n'a pas fait, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, donc ça peut se passer. Bon, je l'impose, mais je vous promets que ceux qui dépassent cette étape-là, ils deviennent plus maniaques que moi.
Dimitri Droineau, vous avez dépassé cette étape-là.
Je sais pas, mais c'est vrai que c'était en termes de maniaque. J'ai une maman qui est déjà très maniaque, mais alors le chef, j'ai des souvenirs de service où pendant le service, il prenait un couteau pour gratter entre les carrelages. Enfin, on pouvait manger par terre dans sa cuisine. Et c'est ce que je demande aussi dans mes cuisines. Il faut impérativement que ça soit un bloc opératoire, une cuisine. On doit avoir les mains propres, on travaille des aliments. Il faut que, comme je dis aux cuisiniers, il faut à n'importe quel moment de la journée, on peut avoir un client, le service d'hygiène ou n'importe qui. Il faut être crédible, il faut être... voilà, c'est une cuisine, ça s'entretient, ça se nettoie pas, ça s'entretient. C'est beaucoup d'entretien tout au long de la journée. On peut pas travailler comme des cochons par terre, on risque de glisser, on peut pas. Enfin, puis je sais pas, on nourrit les gens, quoi. C'est pour moi, ça s'apparente, sans les études, à de la chirurgie.
Il vous a appris la rigueur, peut-être la maniaquerie, de l'hygiène, mais il vous a appris beaucoup d'autres choses, Bernard Pacot. Vous lui devez beaucoup.
Oui, parce que au final, quand je suis rentré chez l'Ambroisie, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais perdu en Normandie, c'est-à-dire la maison familiale. J'ai retrouvé chez ce monsieur, place des Vosges, une maison à taille humaine, avec, 100% de professionnels, de gens concernés. C'est vraiment une petite structure. Dans un reportage, il se disait que c'était finalement une écurie de Formule 1, une petite écurie de Formule 1. Et c'est vrai. Tous les collaborateurs là-bas, tout le monde était complètement impliqué autour du chef. J'ai été pris de passion pour ça. Alors au début, j'étais très très maladroit, je faisais tout tomber. C'était une toute petite cuisine, hein. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer dans cette maison, mais j'étais le plus jeune finalement à être rentré à l'époque.
Vous aviez 20 ans ?
J'avais 20 ans, 21 ans. Et c'est vrai que tous les gars avaient 30, 35, acquis, il avait déjà 15 ans de maison au poisson. Les autres avaient déjà plus d'expérience que moi. Donc c'est vrai qu'il m'a pris un peu sous son aile parce que je perdais mes moyens au début.
Et quand vous avez perdu, alors vraiment vos moyens, parce qu'en plus vous vous êtes fait un ulcère,
oui.
Estomac.
Oui.
Là, le chef Pacot, qui avait cette dureté, qui avait cette rigueur, qui avait cette exigence pour son équipe et pour maintenir les 3 étoiles, vous emmenait jouer à la pétanque.
Oui. La dureté, je dirais pas. Enfin, moi, c'est le chef le plus sympathique que j'ai eu.
C'est pas le management à l'ancienne rejetez aujourd'hui.
Au contraire.
On va en parler.
À l'époque où on était, c'est-à-dire il y a 27 ans, 26 ans, c'était le, moi je pense que c'était quasiment un des seuls à manager comme ça. Il rouspétait pas, tout se passait dans le respect. Alors après, c'est vrai qu'il y avait quand même des Zidane autour du fourneau, quoi. Moi je suis arrivé, j'étais un petit peu là. Bah, faut le dire, quoi, la petite brebis, quoi. Mais il m'a pris un peu en sympathie, et le jour où son ami médecin lui a dit, bah, le jeune, là, qu'est-ce que tu lui fais? Parce qu'il vomit du sang, quoi. Et il s'est pris vraiment, il s'est pris d'affection, je pense, pour moi, et il m'a proposé d'aller directement tous les après-midi jouer à la pétanque avec lui au Bois de Vincennes pour démystifier un petit peu le personnage.
Et ça aussi, c'est ce que vous faites, vous, Dimitri Droineau, aujourd'hui, ouais, avec vos propres jeunes quand ils ont un coup de mou.
Ouais.
Alors, vous les emmenez pas faire de la pétanque, quoi que vous pourriez, mais vous les emmenez faire de la plongée, ouais, vous les emmenez du paddle, faire du VTT, ouais, du paddle.
Ouais. C'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a certains jeunes, et moi j'étais dans ce cas-là, où on est complètement, on perd nos moyens face à peut-être une personnalité ou quelque chose comme ça, où on s'en fait tout un truc. Bah, moi en tout cas, c'était mon cas. Je perdais mes moyens, je bossais à côté de lui, j'arrêtais pas de me couper, je faisais tomber des assiettes. Je m'en rappelle, c'était un carnage, quoi. Jérôme Banquetel, mon second à l'époque, s'en rappelle encore, on en rigole, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il m'a démystifié un petit peu son rôle et sa personnalité, je suis rentré dans quelque chose de beaucoup plus normal. J'avais beaucoup moins de pression et ça devenait beaucoup plus du plaisir.
Si on fait ce parcours qui est le vôtre, Dimitri Droineau, c'est aussi parce que votre histoire, elle est emblématique, elle est exemplaire, à vrai dire, de la façon dont c'est très très difficile d'arriver au stade le plus élevé de la gastronomie française. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous tombez, vous vous relevez, vous êtes vraiment déterminé. Vous êtes passé par des hauts et des bas, la pression, la fatigue, les horaires, parfois la maltraitance. Vous les avez connus aussi. D'ailleurs, vous avez claqué la porte au bout d'un an de la réserve de Beaulieu où vous étiez, parce que c'était pas possible en quelque sorte. Puis vous êtes revenu, mais cette fois vous étiez chef. Donc c'est ça le management à l'ancienne que vous avez quand même fui,
ouais.
Et en même temps, vous dites, vous ne regrettez pas ces moments-là, parce que c'est aussi ça qui vous a construit.
Bah, c'est vrai qu'il y a forcément, comme dans tout métier exercé par passion, à un moment donné, on a un genou à terre. La réserve de Beaulieu, rien à voir avec le patron. Moi, j'ai fait 2 ans et demi avec un chef un petit peu à l'ancienne à l'époque, et c'est vrai que j'ai tout claqué, et il m'avait dit à l'époque, bah, ça y est, t'es grillé dans la profession, je vais te ruiner. Je suis parti dans les îles, je suis parti à Saint-Barth et j'ai postulé en tant que chef adjoint dans un 2 étoiles, j'ai postulé pour être communard. Parce que je voulais plus entendre
c'est
parler.
C'est quoi communard?
Bah, c'est celui qui fait à manger pour le personnel. Donc
là, vous avez dégringolé. Bah,
c'est pas une dégringolade, c'est une chute libre.
Ah,
mais bon, écoutez, le personnel n'était pas si mal. Le chef à l'époque, Jean-Claude Dufour, a bien aimé le personnel. Il m'a catapulté après, au bout de 2-3 mois, chef de production des 2 restaurants. Mais c'est vrai que je ne voulais plus entendre parler de ça, de ce management toxique, de la pression, du Michelin. Pas le Michelin, parce que ce n'est pas le Michelin qui met la pression. C'est les gens qui ont peut-être du mal à prendre la charge mentale sur eux. Et on parle toujours de la pression du Michelin, mais le Michelin, moi, vous savez, je ne suis pas en contact avec eux. Ils viennent nous juger comme n'importe quel journaliste ou critique. Et il faut l'accepter. Je pense que ça dépend comment nous, on va traduire cette pression. C'est tout simplement ça.
Il se trouve qu'en plus, pour vous, dans votre cas, Dimitri Droineau, les étoiles Michelin sont arrivées à des moments importants dans votre vie. La deuxième étoile, la première était déjà là quand vous êtes arrivé.
Oui.
Vous avez donc directement eu une deuxième étoile en 2014, quand vous avez repris la Villa Madi, donc à Cassis, dans un contexte économique ultra difficile. Et la troisième est arrivée en 2022, juste après le Covid.
Ouais.
Et pour vous, c'était un moment particulièrement difficile après le Covid. Donc ça a été des planches de salut, ces étoiles, pour vous.
Bah, écoutez, oui, mais je pense que c'est peut-être la somme du travail aussi, et de rien lâcher dans ces moments-là. Bon, je vous cache pas que c'est vrai que la troisième étoile, quand elle est arrivée, j'avais vraiment encore une fois un genou à terre. Les années Covid nous ont quand même, je pense, tous un petit peu esquintés. Voir des jeunes qui se dépassionnent. Finalement, à la tête d'une entreprise, on s'apercevait qu'on perdait tous les fils, quoi. On perdait l'humain, on perdait nos clients, on perdait nos prestataires, tout le monde se dépassionnait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pris sur moi. Et quand cette troisième est arrivée, bah, j'étais un petit peu KO, ouais.
On est en 2025, c'était en 2022.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'elle a changé, cette troisième étoile?
Bah écoutez, elle est venue peut-être. Ça n'a rien changé. Je pense que ça n'a rien changé chez moi, mais c'est venu saluer un petit peu mon travail.
Et le travail de votre équipe, parce qu'il est très important voilà. À vos côtés, elle est très fidèle.
J'englobe forcément l'équipe.
D'ailleurs, l'étoile récompense un restaurant et le travail d'une équipe.
Bah, tout seul, on ne fait pas grand-chose. Hein. Je vous assure que moi, j'ai, comme je dis, j'ai mon épouse, c'est aussi les 50% de tout ça. Hein. Marielle.
Épouse Marielle rencontrée à la réserve, vous ne voyez pas que du mauvais.
Ah non, mais en aucun cas, la
réserve de Beaulieu, c'est un restaurant.
Avec le temps, c'est devenu des bons souvenirs, la réserve. Mais c'est vrai que, c'est la somme de beaucoup de choses, de l'implication des collaborateurs, Julien, David, mon chef sommelier, mon directeur de salle, mon chef pâtissier. Enfin, tout ça, c'est des gens qui ont compris à un moment donné une sorte de cheminement et qui sont rentrés dans une maison, qui se sont appropriés et ils l'ont fait sienne. Quoi. C'est vrai que là, écoutez, moi, je ne suis pas au service ce midi, c'est eux. Et j'ai toute confiance en eux parce qu'ils ont compris un petit peu notre démarche et finalement la philosophie de la maison.
Peut-être même qu'ils sont en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas. Non, c'est pas possible ça. Hein. Il est midi et quart, c'est le coup de feu.
Nous, on n'a pas de radio ni rien en cuisine. Hein. C'est...
Midi et quart sur France Culture, midi et quart à Cassis, à la Villa Madi, où travaille l'équipe de Dimitri Droineau. On écoute.
PJ, Nico, venez les gars là. Le lapin, je vais le changer. Je vais prendre des blettes et je vais mettre, comme je t'ai dit hier, en fait, la fleur de courgette autour. Je vais retirer la blette.
D'accord.
Ok ? Non, mais t'inquiète, c'est bon. Oui. Et sur la courgette, on mettra un mélange de parmesan, chapelure et le lapin.
Oui, chef. Oui, chef.
Tu veux un sucre, Nico, ça va aller ? C'est la même chose, hein ? Je m'occupe du lapin, ne t'inquiète pas.
Pour la farce, on est d'accord, je rajoute l'appareil abricot que
ouais, qui reste utilisé. Dans les épaules.
Un peu de marjolaine, t'as un citron.
Ouais, basta.
Ok.
Ouais.
Bon alors, il n'y a pas de lapin en ce moment à la carte, je crois, Dimitri Droineau. Mais là, au moment où ce reportage a été fait, il y en avait. Ce qu'on entend et qui est très intéressant, c'est à quel point vous aimez quand même encore le changement. Vous ne tenez pas en place et les équipes, il faut qu'elles suivent. Hein.
Ben, ce jour-là, j'avais un Nicolas, très bon cuisinier d'ailleurs. Mais c'est vrai que je m'étais un peu exaspéré avec lui parce qu'il y a des cuisiniers comme ça qui sortent de maison des fois ou qui sont habitués à une certaine routine ou rengaine où les menus ne changent pas et rien ne bouge. Et c'est vrai que chez nous, c'est pas ça. Comment vous dire ? Je fais vraiment très attention à ce qu'aiment mes clients, mais je veux pas rentrer dans une espèce de rengaine, de plat signature sur tous les menus. Quoi. On a besoin, à un moment donné, d'apporter autre chose, de rester aussi dans une zone de risque pour justement nous challenger. Moi, je peux pas. Il y a des plats, j'aime bien. Enfin, c'est vrai qu'on aime bien nos plats signature, entre guillemets signature, parce qu'un plat, je pense qu'il peut toujours être soumis à évolution. Il y a une question de temps, une question de pas mal de choses, le support, pas mal de choses peuvent être remises en question. Maintenant, c'est vrai que j'ai besoin souvent, puis bon, vous avez pu remarquer, je suis assez énergique, je peux pas arriver dans une cuisine et me dire, bon bah les gars, on va faire ça à la semaine. De toute façon, notre circuit court nous permet pas d'avoir les quantités qu'on veut, on est tout le temps obligé de bouger en fonction de la saisonnalité, du moment, des approvisionnements, de la météo, de la mer, des caprices, de plein de choses. Donc c'est vrai que c'est une des difficultés que les gars rencontrent quand ils arrivent à la Madi, et je les préviens bien au démarrage, c'est que rien ne change, enfin on change jamais totalement tout, mais on est tout le temps en mouvement.
Il y a par exemple dans votre cuisine, Dimitri Droineau, les écosystèmes que vous servez au début de votre menu, qui sont comme des entrées qui rassemblent des petits poissons, des coquillages, des crustacés, la pêche du jour. Donc là, ça évolue évidemment en fonction de la pêche du jour, par exemple. Mais l'écosystème, il reste.
L'écosystème reste. Écoutez, en changeant les menus un petit peu tous les jours, j'arrivais plus à tout le temps trouver des appellations. Donc je me suis dit à un moment donné, on va appeler ça écosystème parce que même au sein, même à l'intérieur de notre mer Méditerranée, il y a des écosystèmes différents. J'ai des écosystèmes blancs, c'est des écosystèmes qui sont un peu plus basés sur des poissons des sables, des huîtres ou des choses un peu plus blanches comme ça, ou des écosystèmes rouges, des écosystèmes de roches. Donc c'est vrai que tout ça, il faut être fou comme mon adjoint pour me suivre dans ces trucs-là, parce que c'est vrai que là on parle d'approvisionnement quotidien, et il faut justement trouver à un moment donné les bonnes commandes, les bons produits, pour finalement après que ça rentre dans notre cahier des charges.
On parlait des étoiles avant midi et quart, Dimitri Droineau. Le plus dur pour vous, c'est de vous maintenir ou de vous réinventer ?
Je pense que de toute façon, c'est une rigueur qu'on doit à nos clients. Dans ce métier, on peut pas, comme j'explique souvent, c'est pas la troisième étoile. Je pense sincèrement que j'ai un respect incroyable pour mes clients. Ceux qui reviennent et qui viennent et les habitués. Et ça,
vous avez une clientèle d'habitués beaucoup.
Voilà. J'ai beaucoup d'habitués à qui je propose toujours un truc différent. on reprend un petit peu notre listing et on propose des choses différentes. Mais en face de notre cuisine, il y a aussi, ça il faut le dire, il y a un prix. C'est quand même le restaurant, on peut pas le faire tous les jours. C'est vrai qu'à un moment donné, bah, les gens déboursent une certaine somme, viennent des fois, font des centaines de kilomètres. Et dans ces moments-là, moi, c'est vrai que c'est là où je me mets la pression à chaque service. À tous les services, j'ai le trac. On a une promesse à tenir à ces gens-là. Donc, on n'a pas le droit à un moment donné de se dire, bah ouais, je suis un peu moins bien en ce moment. Oui, bon, bah le produit, il est moyen. Non, à tous les jours, en fait, c'est que c'est énergivore. Hein. Moi, c'est vrai que ça me prend, et c'est pour ça que c'est un métier qui me passionne encore. C'est que ça me prend pas mal de mon énergie que j'ai en surplus. Donc, à travers tout ça, c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer dans un truc où on va proposer les mêmes choses constamment. C'est, comme je dis aux équipes, c'est un peu comme un couple. Si on rentre dans quelque chose de trop consensuel, au bout d'un moment, il y a divorce. Donc, il faut un peu de relief.
Et c'est la différence, c'est le changement permanent qui permet ça.
Voilà. Et comme je dis, hein, vous savez, il y a toujours, on va dire, on est tout le temps... moi, je suis à la recherche du strike à chaque assiette.
C'est quoi le strike ?
Bah, c'est dans le mille, quoi. Moi, je veux que quand on sorte une assiette, je travaille vraiment en étroite collaboration avec mes serveurs, parce que c'est aussi important le service que la cuisine, hein, on est bien d'accord. Je cherche le strike. Je veux qu'à chaque fois, en fait, quand le convive a fini son assiette, je veux que ça soit spontané son retour. Je veux pas qu'on tombe dans un truc bateau. Alors ça s'est bien passé, machin. Non, je veux que ça strike. Et c'est là où on voit une vraie recette.
Vous cherchez quoi? Vous cherchez une émotion, des larmes? Vous cherchez une surprise? Vous cherchez un choc? Vous cherchez quoi? Tout ça. Ouais. Le strike, c'est tout ça à la fois.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est le strike. J'ai certains convives des fois qui me font ça. Je vais en salle, puis je suis bon, j'ai ma carapace, mais c'est vrai que quand on a un convive qui nous regarde et qui a les larmes aux yeux, ça me procure aussi des émotions. Et c'est ça qu'on cherche.
Il y a des plats, Dimitri Droineau, et vous cherchez le strike sur des plats, sur, je sais pas, le loup, par exemple, avec une feuille d'huître, qui est peut-être un peu comme votre plat signature avec des échos invisibles d'enfance.
Oui, c'est ça, oui.
Bon.
Bah, il y a toujours une part du passé. Je pense inconsciemment qu'on cherche un petit peu à retranscrire les émotions du passé. Ma mère cuisinait très bien, elle cuisine encore très bien d'ailleurs. Mais et c'est vrai que finalement, j'ai des plats comme ça qui sont un petit peu à la mi-chemin entre les recettes de ma mère et les miennes et mon écosystème, le territoire dans lequel on est.
Qui est maintenant méditerranéen, qui autrefois méditerranéen. Était normand.
Voilà.
Vous êtes quand même descendu dans le sud.
On fait une sardine au caviar où c'est tout simplement la salade de pommes de terre tiède, échalote, hareng fumé de la maman. Quoi. Bon, bah, je l'ai retranscrit avec une technique différente, avec des produits différents, mais l'émotion, elle est là.
Il y a donc des plats, et puis il y a un menu. Et donc il y a quand même aussi une chorégraphie des assiettes qui doivent ensemble procurer comme un voyage gustatif. Comment vous le pensez, ce menu ?
Ben écoutez, c'est un peu comme la musique au final. Il y a des moments forts, il y a des reliefs différents, il y a des textures. À chaque moment dans mon menu, c'est ma philosophie. Je vais démarrer par exemple par des fortes minéralités ou des acidités et ça va dérouler vers des caramélisés et des choses un peu plus fortes. Mais je vous avouerai que je fais beaucoup de repas tests aussi dans mon restaurant.
Assez
souvent, oui, je m'assois à une table. Et véritablement, je pense que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, avec Marielle, on est passé sur autre chose. J'avais lu un livre, Le principe de l'émotion de Pierre Gagnaire, qui m'avait bouleversé parce que il disait à un moment donné qu'il avait eu longtemps 2 étoiles et le jour où il s'est assis à sa table et qu'il a goûté sa cuisine, là il est passé sur autre chose. Et à la lecture de ce livre, j'ai mis ça en application. Je me suis dit un jour on va aller dans le restaurant. J'ai pris un calepin, un crayon et je me suis dit je vais repérer un peu toutes les bêtises de tout le monde. Au final, 99% des bêtises c'était moi qui les commettais. Les équilibres étaient complètement de travers, plein de choses n'allaient pas en fait. Je faisais faire beaucoup de bêtises à mes serveurs.
Vous parlez de Pierre Gagnaire ?
Oui.
Pierre Gagnaire.
C'est mystérieux, même pour le cuisinier. On produit quelque chose, on le maîtrise à 90%, et puis il y a ces 10% ou ces 5% qui sont mystérieux parce qu'il se passe quelque chose, qui fonctionne parce que les gens sont assis dans un endroit, je dirais, soigneusement étudié, pour la lumière, la température, le nappage, enfin, tout ce qui crée une espèce d'enveloppe particulière. Et là, effectivement, il se passe quelque chose qui est magique et les gens découvrent d'autres saveurs, une autre façon de se nourrir. Mais à la fois, on en est évidemment les responsables, mais on n'a pas toutes les clés. Hein. Je crois que c'est le mystère de la vie et le mystère du créatif. Hein. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, vous échappe. C'est plus votre histoire. C'est la façon dont c'est reçu.
Vous pensez un peu pareil, Dimitri Droineau ?
Moi, je suis pas objectif avec Pierre Gagnard. C'est Bernard Pacot, Pierre Gagnard, ces chefs-là. Moi, c'est des... voilà. Non, il a tout à fait raison. Mon épouse me le dit aussi assez souvent. Des fois, on a des convives qui arrivent, qui sont peut-être un petit peu stressés par les embouteillages ou des choses comme ça. Et elle me répète à chaque fois, je dis, oh là là, lui, il faut qu'on fasse gaffe et tout. Elle me dit à chaque fois, laisse le ventre plein, ça ira mieux. Et c'est vrai que, il y a un moment donné, on a un rôle à jouer, nous, en cuisine, mais l'accueil, le service, c'est eux qui, on peut leur tirer aussi la palme. C'est que, c'est cette faculté que, à mon épouse, de finalement, accueillir les gens, on veut que notre restaurant soit dans une espèce de cocon. Le cocon, c'est Marielle qui l'a défini, ça. Chaque client arrive, on a forcément une attention pour chaque client, on fait du sur-mesure pour chaque client, et on s'adapte aussi à chaque humeur. C'est aussi notre métier.
Ça fait beaucoup, hein.
Ouais.
Un seul homme. Dimitri Droineau, pour rester avec nous, c'est l'heure de la chronique de Maurice Accot, le dialogue des cuisines. Mmh. 12h25 sur France Culture, le dialogue des cuisines. À vous, Maurice Accot.
À moi, du coup. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un monument de la gastronomie française, le pâté en croûte. Le pâté en croûte voit son apparition au Moyen-Âge. Il était aussi bien consommé par le peuple sous la forme de petits pâtés individuels, vendus dans des étals de charcutiers ou boulangers, que par les aristocrates qui en faisaient des pièces assez impressionnantes. Au tout début, la pâte n'était pas faite pour être consommée. Elle servait juste comme moyen de conservation pour la viande à l'intérieur. Le terme pâtisserie leur était par ailleurs réservé, car il s'agissait de viande cuite en pâte. Ce n'est que plus tard que le terme reviendra au sucré. Le pâté en croûte s'est par la suite très vite popularisé sous l'impulsion de pâtissiers qui rendirent la pâte comestible. Puis c'est devenu une affaire régionale, chaque région développant son propre pâté croûte. Le pâté de Chartres, Alsacien ou Lorrain, sans oublier une terre de charcutiers avec le pâté croûte lyonnais. Le pâté en croûte a même sa propre légende, avec l'oreiller de la Belle Aurore. Une pièce monumentale de 15 à 30 kilos, composée d'une quinzaine de viandes, de foie gras et truffes. Elle porte le nom d'Aurore, en référence à la mère du célèbre Brillat Savarin. Certains disent qu'il l'aurait inventé en son honneur, et d'autres que ce serait le cuisinier de la famille, amoureux de la dame, qui l'aurait inventé pour la séduire. Peu importe la version, il s'avère que cette pièce est un véritable chef-d'œuvre que l'on peut déguster chez plusieurs charcutiers traiteurs durant l'automne et l'hiver. Si la tradition du pâté a bien perduré jusqu'à aujourd'hui, il avait perdu de son attractivité pendant les années 80 à 2000, la cause d'une industrialisation du produit. Mais ces dernières années, le pâté croûte is back, je pourrais carrément dire qu'il est à la mode. Il a même son championnat du monde. Et au vu des résultats, on pourrait même deviner une nouvelle terre du pâté en croûte qui apparaît. Car sur les 10 éditions, de 2014 à 2024, 6 ont été gagnées par des Japonais. Pour finir, je vais non pas vous partager une recette de pâté croûte, beaucoup trop long et technique pour être décrit en quelques secondes, mais plutôt de la base de son accompagnement star, les pickles. Pour ceci, je vous transmets un classique des cuisines professionnelles, la recette dit 3-2-1 ou 1-2-3, selon là où on travaille, qui forme la base liquide de tous les pickles. 3-2-1 donc, car la pesée est extrêmement simple. Il suffit de compter 300 g de vinaigre, 200 g d'eau et 100 g de sucre. Portez à ébullition, puis versez chaud sur l'aliment cru désiré. Cela peut être des radis, du concombre ou encore des oignons grelots. Une fois versé, il suffit de recouvrir et laisser mariner environ 48 heures au frigo. On les conserve facilement un mois et vous pouvez même vous amuser à interchanger les lignes. Prenez par exemple 300 g de vinaigre, 200 g de sucre et 100 g d'eau et cela vous fera une base plus sucrée et sirupeuse. Vous connaissez la base, je vous laisse vous amuser maintenant.
Merci Maurice Accot, Dimitri Droineau, pâté croûte, vous faites ?
Oui, alors des tourtes, oui, des variantes.
C'est ça que vous mangez à la maison quand vous n'êtes pas au restaurant ?
Ah non, à la maison, on mange un peu plus simplement. On essaie de se concentrer sur des légumes, du poisson. Non. La semaine, je goûte toutes mes sauces, je goûte ça tous les jours.
Donc ça suffit, très simple. Hein,
on essaie de faire simple, oui.
Bah, le week-end, on mange léger.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci
vraiment d'être venu ce midi dans Les Bonnes Choses, nous voir et nous raconter à la fois votre parcours et votre cuisine. Dimitri Droineau, la Villa Madi à Cassis. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les Bonnes Choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Anthony Thomasson. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.